Bonjour et bienvenue à Escal 17-18h, Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Oui, c'est la journée de mercredi, donc ça, ce qui veut bien dire que il y a le chroniqueur de plein air et de loisirs. Voilà, Stéphane Baudet qui sera avec nous en première partie d'émission pour nous parler de quoi aujourd'hui. Bon, ça c'est... Attention, on est encore en période de relâche, donc ce qui les suggestions d'activité extérieure pour ce qui reste de la semaine de relâche, il va nous parler de ça. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Louis-Philippe Lampron qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'université de Laval, bien sûr. Il va nous parler de son livre « Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie des droits et libertés ». Alors, on va à musique. Tout de suite, on commence avec Janet Jackson et Daddy Yankee, « Made for Now ». Janet Jackson avec la complicité de Daddy Yankee, Made for Now. Voilà, Stéphane Baudry est déjà au bout du fil qui va nous parler des suggestions d'activités extérieures pour ce qui reste de la semaine de relâche. Bonjour Stéphane Baudry.
Bonjour Fulgence, comment ça va?
Je vais bien, merci. Et toi?
Ça va très bien, merci.
Oui, voilà, qu'est-ce que tu nous proposes là pour comme activité? Quelles sont les suggestions d'activités extérieures que tu as pour nous et nos auditeurs?
Ben oui, là, c'est ça. On est rendu, je dirais, plus que la moitié, mais il reste encore jeudi, vendredi, et pour certaines activités, même la semaine,
oui.
La fin de semaine, le week-end.
Mm-hmm.
Alors, il y a quand même des belles choses. On commence à manquer d'idées, puis on a de la misère un petit peu à faire l'animation.
Oui.
Ben, donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire.
Mm-hmm.
À l'extérieur, et même certaines choses aussi à l'intérieur.
Oui.
Mais toujours divertissant, toujours intéressant à explorer.
Mm-hmm.
Pour une bonne partie du Québec, comme on dit, c'est la semaine de relâche. Et la météo s'annonce quand même assez douce et calme pour les prochains jours. On parle pas d'averse de neige comme on a eu, on parle pas de moins 20. Alors, il y a quand même, par contre, la neige est tombée, il y a de très beaux paysages enneigés qui nous attendent.
Oui.
Alors, on a la chance, c'est sûr, au Canada, d'avoir accès à une grande variété d'endroits où est-ce qu'on peut profiter du plein air, peu importe le budget. Au Québec, on a les parcs fédéraux, provinciaux, régionaux et municipaux. On a même le privilège d'avoir des fois un accès facile, puis même des fois gratuit à des parcs qui sont pourtant propriété privée.
Oui, oui, ça c'est pour ceux qui vont dire, bon ben moi ça me coûte cher, les parcs, bon c'est jamais gratuit. Non, 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 il y a des parcs qui sont très gratuits, qui sont totalement gratuits. Là.
Oui, puis il y en a même qui sont à don volontaire, fait qu'on met ce qu'on veut.
Oui.
Alors c'est ça, c'est des fois c'est seulement pour entretenir les sentiers, entretenir tout ce qui est la signalisation et tout ça.
Mm-hmm.
Ici, on a le réseau de la CEPAC. Puis aussi les parcs régionaux, là, c'est vraiment des belles occasions de faire des activités, peu importe la saison. Moi, j'aime bien le parc national du Mont-Saint-Bruno. C'est pas tellement loin de Montréal.
Oui.
C'est pas une montagne c'est pas exigeant, je dirais, au niveau là, des pentes et tout.
Mmh.
C'est un bel endroit aussi pour s'initier au sport de glisse. Par exemple, pour les jeunes, il y a le parcours sur la piste des clubs d'énergie.
Mmh.
Et les enfants peuvent s'initier au ski de fond tout en douceur. Alors, c'est vraiment le fun. Après ça, il y a un petit parcours qu'ils peuvent faire. Il y a la marche hivernale le long du sentier seigneurial. On fait le tour de ce grand lac qui est là. C'est vraiment splendide. Il y a des très belles demeures aussi qu'on peut admirer,
oui,
dans ce coin-là.
Mm-hmm.
Et exceptionnellement, normalement, il est seulement ouvert le week-end, mais le vieux moulin, où est-ce qu'on peut déguster... café et viennoiserie, ben là, il est ouvert de 10h30 à 16h tous les jours de la semaine de relâche.
Mmh.
On se rappellera que le Vieux Moulin, c'est un endroit historique qui a été bâti en 1725, où même les Patriotes, quand il y a eu les événements, 1834, entrés dans ce coin-là, ils se sont réfugiés.
Ah.
Alors, c'est pour avoir les informations, c'est cepac.com/PQ/MSB.
Oui, oui.
Il y a aussi le Mont-Loup-Garou, dont j'avais parlé il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut choisir beaucoup notre longueur de sentier.
Mmh.
Donc, en famille, ça se fait très, très bien. On peut en faire un peu plus. Les enfants sont encore en forme. On peut en faire encore un petit peu plus. On peut facilement, comme ça, ajuster au fil de la randonnée, je dirais, un petit peu la longueur du parcours.
Le premier, la piste des cubes d'énergie, le nom m'a fait tellement...
Ouais.
Le nom m'a fait sourire. Pourquoi ils ont nommé ça?
L'été, ils ont souvent quelque chose au Mont-Saint-Bruno, c'est les cubes énergie. Alors,
ah.
C'est toute l'initiative pour faire bouger les enfants et tout ça.
Mm-hmm.
Et là, ils ont fait le même principe, mais l'hiver.
OK, oui. Ouais.
Alors, c'est vraiment intéressant pour ça.
Mm-hmm.
Les enfants peuvent louer l'équipement et tout ça, et s'initier à ce sport-là, qui,
oui,
est quand même très intéressant.
Oui.
Mm-hmm.
Ouais.
Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs endroits. Il y a le parc régional de Rivière-du-Nord, c'est à cause des canards. Moi, je dis, les enfants sont émerveillés de voir des centaines de canards qui s'entassent autour d'eux.
Alors, moi, personnellement, là, je suis pas encore, peut-être que je suis resté enfant, mais si je me retrouve là, je vais passer toute la journée devant les canards.
Ben, c'est ça, c'est les terres avec les canards et tout, c'est les belles sculptures aussi, tout en bois de rivage.
Mm.
C'est vraiment magnifique. Il y a des chevaux, il y a des sculptures de chevaux, il y a des sculptures. C'est un bel endroit.
Mm.
Ça aussi, c'est des parcours faciles. C'est parsemé de différentes choses. Les dindes sauvages, c'est impressionnant aussi, quand même.
Oui.
Il y en a moins,
oui,
mais ils sont quand même vraiment intéressants. Il y a le pont qui surplombe la rivière, qui est vraiment torrentiel.
Mm.
C'est pour ça qu'il y a, comme les restants d'un ancien barrage, il y a une ancienne centrale hydroélectrique aussi dans ce coin-là.
Oui.
C'est vraiment un très bel endroit,
oui,
à visiter.
Mm. OK. Et pour ceux qui ne peuvent pas sortir de l'île de Montréal, par exemple, qui n'ont pas de voiture ou bien qui savent pas comment avec un transport de transport en commun se rendre dans ces parcs qui sont en dehors de Montréal. Qu'est-ce que tu leur proposes pour Montréal?
Il y a plein de belles choses à Montréal aussi. Ça, c'est vraiment intéressant.
Oui.
C'est sûr que on peut explorer les trésors du quartier historique du Vieux-Montréal.
Oui.
Tout en s'amusant avec le rallye hivernal gratuit qui est proposé par Guy Latour et la Société de développement commercial du Vieux-Montréal.
Oui.
Ça dure environ une heure. Mm-hmm. On peut choisir comme une version adulte ou familiale. Mm-hmm. Et c'est vraiment, on se présente à Place Royale, mm-hmm, entre 13h et 16h. Et il n'y a pas besoin de réservation. Et on se présente là. Il y a des animateurs bilingues qui vont accueillir les gens et qui vont remettre du matériel pour, mm-hmm, faire le rallye. Alors, c'est vraiment une belle expérience et ça ne coûte rien.
Mm-hmm.
Et ça finit à Place Jacques-Cartier.
Oui.
Et il y a aussi l'exposition Place au cirque, qui est présenté à Musée Pointe-à-Calière jusqu'à dimanche. On présente des costumes, des décors, des accessoires, des maquettes, puis plein d'autres objets.
Jusqu'à ce dimanche qui vient là.
Oui, c'est ça. Fait que ça finit. Mmh. C'est une exposition temporaire. Et là, elle se termine dimanche. Fait qu'après dimanche, c'est fini pour, oui, cette exposition-là. Mais il y a aussi l'exposition permanente, qui est une exposition familiale à l'abordage pirate ou corsaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça propose aux jeunes d'entrer dans l'univers du capitaine de bateau Pierre Lemoine d'Iberville,
oui,
le plus célèbre corsaire canadien, et de revivre ses périples sur le fleuve Saint-Laurent.
Oui, oui, oui. Ouais, alors, j'ai entendu son histoire. J'ai entendu la première fois son histoire de la bouche de l'ancien membre du groupe Loco Locas Biz, qui a fait une exposé spéciale sur lui.
OK.
Oui.
Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on pense pas que des personnages comme ça font partie de l'histoire du Québec.
Oui.
On connaît pas tout ça. Puis il y a vraiment beaucoup de choses comme ça.
Oui.
Beaucoup de personnes comme ça qu'on se rend pas compte de toute l'histoire riche qu'il y a autour, même seulement à Montréal et autour de l'île de Montréal.
Oui, 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 oui.
Puis évidemment, il y a aussi, quand on veut profiter de l'extérieur, le parc Maisonneuve. Le parc du Mont-Royal, c'est des endroits où est-ce qu'on peut aller se promener gratuitement, où est-ce qu'on peut profiter de la montagne ou d'un grand parc pour faire de la glisse, pour faire du patin, pour faire plein de choses.
Oui.
Et ça aussi, c'est offert aux Montréalais, c'est offert aux gens qui vont à Montréal. C'est vraiment magnifique. On est quand même dans une période où il y a un petit peu moins... c'est ça, des fois, ces endroits-là sont un peu moins fréquentés, sont un peu moins occupés. Alors, c'est vraiment très agréable. Là. Entre autres, le Vieux-Montréal,
mm-hmm,
c'est un beau moment pour aller l'explorer.
Qu'est-ce que je voulais dire? À propos de ceux qui ne peuvent pas sortir de Montréal, au fait, de toute façon, il ne faut pas que les gens trouvent toujours des arguments ou bien des alibis pour dire que il fait encore froid parce qu'il fait doux ces derniers temps, ces derniers jours-là, il faut le dire.
Oui,
comme tu l'as dit
vraiment.
Dès le début de la chronique, mm-hmm, on n'est pas à moins 20, moins 30, moins 25 là.
Non,
il faut profiter avec les enfants, pour surtout ceux qui ont des enfants. Même si vous n'avez pas d'enfants, profitez-en vous-même tout seul.
Exactement. Puis même si vous n'avez pas de voiture, je sais que, par exemple, je l'ai vu au parc... la CEPAC d'Oka, et je l'ai vu aussi à la CEPAC du Mont-Saint-Bruno.
Oui.
La communauto est là.
Mm-hmm.
Alors, ça veut dire que c'est même possible de pouvoir prendre la voiture communauto,
oui,
puis de pouvoir faire le trajet et de stationner dans ces parcs-là.
Oui, oui, oui.
Alors,
oui,
même si on n'a pas nécessairement une voiture, mm-hmm, si on a accès à ce programme-là, mm-hmm, c'est quand même très intéressant pour aller se promener autour de Montréal.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parce que je sais que c'est pas toujours évident d'avoir une voiture à Montréal.
C'est pas évident, hein? C'est pas évident, c'est pas évident. Pour trouver une place pour parquer ou bien pour ranger son petit véhicule là, ou bien son. Il y a des gens qui roulent des 4x4 à Montréal. Hein? Encore là, faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de. Oui, partout il faut payer. C'est payant, tout est payant à Montréal.
Oui,
c'est ça,
effectivement.
Mmh. Voilà, tu peux parquer gratuitement quelque part à Montréal. Alors, pour terminer.
Alors, c'est ça. La semaine de relâche, c'est une merveilleuse occasion de faire découvrir à nos enfants toute la richesse de la nature et la,
oui,
culture qui existe au Québec.
Oui.
Peu importe la région où nous habitons, il y a toujours un parc, un musée, un festival qu'on peut aller explorer puis admirer. Puis, si vous habitez au Québec, il y aura presque toujours au moins une CEPAC pas trop loin.
Oui.
Que vous habitiez même très au nord ou à l'est. Là. J'ai vu, il y a un parc de la CEPAC là, qui est vraiment là, ou à l'extrême nord du Québec. Là. Alors, il y en a partout.
Oui. Et puis bon, les incontournables de Montréal, le parc Maisonneuve et du Mont-Royal, on n'a même pas besoin de vélo, même on peut aller à pied. Si on n'a même pas besoin de métro, de bus, on peut aller à pied quand il fait pas si froid que ça, quoi. Voilà, je veux dire. Sinon, c'est facile de fréquenter ces deux parcs-là. Ce sont les incontournables de Montréal, ça, comme tu les appelles, oui.
Oui, puis même, je dirais, plus au nord de Montréal, il y a le parc de la Visitation. Montréal est plein de parcs comme ça qu'on
Oui,
peut visiter.
oui.
Et c'est des parcs qui vont évoluer au fil des saisons, mais qui sont toujours très agréables à aller voir.
Oui, et puis ils sont très bien entretenus d'ailleurs.
Très bien, oui.
Ouais, merci beaucoup Stéphane.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine en studio?
Ben oui,
Ouais,
enfin.
il était temps que tu reviennes.
J'ai bien hâte.
Ah, moi aussi. Ok, allez, merci beaucoup. Bonne soirée à toi la semaine prochaine en studio.
Merci, bonne soirée. Au
Bonne
revoir.
soirée. Au revoir.
Intègre avec la force de l'aigle, je suis comme un animal sauvage que la faune protège. On le qualifie comme le plus grand prédateur, et moi je rêve d'être le plus grand orateur. La plume d'aigle est synonyme de paix, de liberté, de courage, de force et de respect. La plume n'est pas seulement un symbole autochtone, elle m'a permis de me découvrir, d'aller au fond de ma personne. L'aigle a une vision, une histoire, une coutume. Mais moi, je suis en mission avec la force de ses plumes, qui sont remplies de loyauté, de bravoure et de sagesse. Elle est offerte aux guerriers en guise de noblesse. Parfois, j'ai le cœur rempli de haine et de rancune, et je trouve ma voix en faisant pleurer ma plume. Je la laisse voler en toute liberté, car la plume peut être lourde malgré sa légèreté. Détenir une plume d'aigle, c'est rien d'autre que de l'honneur, et d'écrire un texte sur elle, c'est d'élever sa splendeur. Elle soulage les âmes les plus malheureuses, elle nous permet de traverser les périodes orageuses. Avec elle, en tant que personne, je m'améliore, et sans elle, pour être honnête, je me détériore. Quand j'écris avec ma plume, j'ai l'impression de voler, que le monde m'appartient, que je peux tout dévoiler. J'ai fait face à moi-même, maintenant je fais face à la musique. Ma seule arme, c'est une plume poétique. L'encrier se retrouve dans le cœur d'un poète, et j'ai trempé ma plume au plus profond de mon être. Pour moi, c'est devenu le symbole de la vérité, un réconfort pour les gens qui ont besoin d'être écoutés, et nous permet de toucher le ciel seulement pour un moment. Et grâce à cette plume, j'ai l'instinct, vive l'instant. Je me sers d'elle, quand j'ai le bagage pour écrire. Sans elle, je suis seul et je souffre. Je suis de ceux qui croient que la plume peut guérir. Elle peut changer des vies, donner un second souffle. Elle illumine mon intérieur, mes forces et mes faiblesses. Elle me rend mélancolique au moment où j'écris ce texte. Elle procure une joie de vivre au moment où on touche le ciel. Sachez qu'un jour, on volera avec les aigles. Ils me laissent en héritage leur force et leur courage, même si leurs plumes ont fait couler une larme sur mon visage. Elles m'ont libéré de mes fardeaux, libérés des mots. J'aimerais leur rendre hommage avec ces quelques mots. Donc je laisse couler l'encre sur une terre où mes ancêtres ont laissé couler leur sang. Je suis l'âme d'une feuille blanche, car mon arme est tombée d'un aigle à tête blanche.
La plume d'aigle. Voilà, c'est à l'écoute. J'ai choisi quelques sujets pour vous avant de passer à la prochaine plage musicale. Et puis ensuite, en deuxième partie d'émission, après la petite pause publicitaire, je vais recevoir voilà, Louis-Philippe Lampron, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Laval, pour nous parler de son livre « Maudite charte, les 10 ans d'assaut contre la démocratie des droits et libertés ». Voilà de quoi il s'agit là maintenant. Il s'agit de, bien évidemment, de l'Ukraine. La tennis, la jeune femme, la joueuse de tennis, Svitolina, qui a battu la Russe Potapova et reverse, qui dit elle va reverser son séguin à l'armée ukrainienne. Elle dit j'étais en mission pour mon pays. Oui. Voilà. Elle, Elina Svitolina, qui a battu la Russe, ça c'est passé hier, hein, au Mexique. Voilà, Monterrey, au Mexique, au tournoi de tennis de Monterrey, Mexique. Et toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée ukrainienne. Alors merci pour le soutien, a-t-elle déclaré. Le public l'a beaucoup applaudi à sa victoire 6-1, 6-2. Oui, j'ai vu le résumé du match. Voilà, elle était vraiment en forme. Il fallait qu'elle compte la Russe de 20 ans, 81e mondial. Elle avait un visage grave, la tête de série numéro 1. Elle a plusieurs fois porté sa main droite au cœur après sa victoire. L'Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. J'ai vu ça. C'était vraiment... Là, l'Ukrainienne est 15e mondiale, bien sûr. Avant, je me suis dit, au fait, c'est elle qui avait déclaré qu'elle ne voulait pas jouer contre la Russe, mais les spécialistes, les officiels de tennis n'ont pas vraiment voulu... retirer les joueuses de tennis russes de cette compétition-là. Ils n'ont pas pris des décisions de ce genre. Donc, ça n'a pas marché. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut ? On va aller avec ça. On sait que la Russie a fait l'objet d'un grand nombre de sanctions sportives. Je n'en avais parlé hier, d'ailleurs, depuis l'entrée de ses troupes en Ukraine. Et puis, l'exclusion des éliminatoires de la Coupe du Monde de football et autres. Et puis, il y a un tournoi de tennis aussi à Lyon, en France. Il y a l'Ukrainienne... Yastremska qui passe le premier tour après un match héroïque. Il fallait voir. Je suis allé voir le résumé du match. J'ai dit, tiens, il faut que j'en parle. Ouais. Diana Yastremska. Ouais. Qui a terminé en larmes son match du premier tour du tournoi de tennis de Lyon hier soir. Dominée en 3h05 la Roumaine Anna Bodgan. 3-6, 7-6, 7-6, 7. Sauvant deux balles de match qui lui ont permis d'avoir la victoire d'ailleurs. Oui, bénéficiait d'une invitation deux jours avant l'invasion d'Ukraine par l'armée russe. Elle est âgée de 21 ans hein, seulement. Ancienne 21e mondiale et actuellement 141e. A fini la partie en larmes et à genoux, prise par l'émotion sous les applaudissements du public lyonnais. Mais Yastremska a su surmonter l'émotion. Elle s'est mise très forte mentalement dans le moment clé de la partie. Hein. Elle dit dans ces instants... J'ai réalisé que ce n'était rien en comparaison à ce qui se passe ou les moments vécus pour venir jusqu'ici et que ce n'était vraiment pas important. Elle était un peu crispée. Elle a fui son pays. Elle n'est pas partie officiellement. Elle n'est pas allée prendre un avion. Elle est passée par la Roumanie pour arriver là-bas d'ailleurs. C'est ce qui fait que je tenais à en parler. Puis, il y a un ancien tennisman aussi, Sergi Strakovici. Ouais. Lui aussi, un ancien tennisman, 36 ans ou bien 37 ans maintenant, il a pris les armes pour aller aider son pays. Ouais. C'est presque tous les Ukrainiens sont en train de défendre l'Ukraine, en train de défendre leur pays. Ouais. C'est comme ça. Excusez-moi, mais il faut que chaque fois que je tombe sur des articles comme ça, que j'en parle, et puis surtout la situation est très, très, très dure là-bas pour ces gens. J'espère qu'ils vont trouver une solution demain à leur rencontre ou bien après-demain. Je ne sais même pas s'ils vont se rencontrer. Ouais, on verra bien ce que ça va donner, quoi. Oui, on va en musique. Merci. Avec la complicité de Morosto, Bouma, Guanaka. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicité et la première pièce musicale, je vais recevoir notre invité, bien sûr, Louis-Philippe Lampron, qui vient nous parler de Maudite Charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie, des droits et libertés. Ouais. À tout de suite.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Harold Williams, Sweet and Spicy. Notre invité déjà au bout du fil, c'est pour nous parler de son livre « Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie, des droits et libertés ». Oui, Louis-Philippe Lampron, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal, de Laval. Je m'excuse, je ne vais pas vous changer d'université. Là. Chercheur régulier au Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, CRIDAC, et co-porte-parole du groupe d'études en droit et liberté de sa faculté, GEDEL, et puis travaillant sur la protection des droits humains au Canada et à l'international. Voilà, il s'est spécialisé sur les enjeux liés à la portée des libertés fondamentales et du droit à l'égalité, sujet à propos desquels il intervient fréquemment dans l'espace public. Il a publié plusieurs textes, dont l'ouvrage « La hiérarchie des droits, convictions religieuses et droits fondamentaux au Canada 2011 ». Ce livre, moi, je vous le dis tout de suite, Louis-Philippe Lampron, je l'adore. Merci beaucoup. Bonjour d'abord à vous.
Bonjour.
Vous m'avez tellement appris des choses. Ou bien pour ceux qui l'ont déjà lu aussi, ils ont appris autant que moi. Voilà, parce que là, vraiment, comment c'est parce que c'est votre domaine que forcément il faut écrire là-dessus. Et puis ça tombe tellement bien, on est en plein là-dedans avec ce qui se passe actuellement en Europe.
Oui, en Europe, je sais ce qui s'est passé avec les convois de la liberté.
Avec les camionneurs ici aussi.
Oui, exactement, l'état d'urgence. En fait, les droits et libertés, ça embrasse tellement large qu'on est toujours dedans.
Oui. C'est toujours d'actualité.
Il y a tellement d'enjeux.
Alors, ce livre, c'est votre expérience personnelle ou bien c'est tout ce qui se passe autour de nous sur cette planète-là qui a fait que vous vous êtes dit, voilà, OK, c'est mon domaine, d'accord, mais il faut que je prenne ma plume, là, pour faire comprendre à ceux qui ne sont pas dans le milieu, pour comment on est... Parce que chacun de nous interprète ça comme il veut, hein.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, les droits et libertés de la personne, c'est des choses qu'on est habitué de voir dans l'espace public, mais paradoxalement, même si on les voit évoquées souvent à toutes les sauces et parfois instrumentalisées, ben on peut avoir il y a une perte de contact, en fait, peut-être, avec ce que c'est ces textes-là, ce que ça vise à protéger, puis à l'intérieur de quel processus est-ce que ça s'inscrit, en fait.
Parce que
quand on regarde, c'est des garanties qui sont libellées de manière large et imprécise, et il est possible de faire dire à peu près tout et n'importe quoi à ces dispositions-là, si jamais, justement, on ne s'intéresse pas globalement aux textes qui en chassent.
Oui.
Les libertés fondamentales et un des principes les plus importants peut-être, c'est justement le fameux mot de John Stuart Mill qui affirme que justement la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence.
Alors,
c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. L'objectif, c'est de rassembler des textes que j'ai écrit depuis les 10 dernières années en lien avec des enjeux qui ont concerné surtout les droits et libertés de la personne au Québec.
Alors, chez nous, ici, au Québec, oui.
Mmh. Oui, exactement. Alors, mais en même temps, dans le local, il y a beaucoup d'universels. Alors, c'est ça, c'est un petit peu... l'objectif, c'était de faire ressortir le fil conducteur, justement, le fil d'Ariane qui réunissait chacun de ces textes-là. Puis c'est justement, quand j'ai eu une masse critique de textes, là, l'objectif qui m'a poussé à aller de l'avant avec cet essai-là.
Mmh. Comment vos collègues universitaires ont réagi à ce livre?
Bien, jusqu'à présent, la réaction est quand même assez bonne. Mmh. Je pense que les textes sur les... plus grand public, un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des articles, évidemment, il y a une littérature scientifique qui est foisonnante sur les droits et libertés de la personne en sciences politiques, en droit, mais des essais qui ont une vocation peut-être plus universelle, là. Il y en a moins au Québec, en fait, il y en a certains, mais quand même assez peu. Alors, je pense que jusqu'ici, le texte est assez bien reçu, j'ai de bons commentaires. Maintenant, c'est lié aussi à la mission... de l'université, c'est-à-dire que les professeurs d'université dont je fais partie, ben on a un travail qui est à faire en enseignement, en recherche, bien sûr, mais également on vise à sortir de cette tour d'ivoire-là et essayer de justement faire circuler l'information puis dialoguer largement avec nos objets de recherche. Fait que c'est sûr qu'un texte comme celui-là, ça s'inscrit dans ce volet-là.
Oui. Comment est-ce que vous pouvez essayer de... Je ne veux pas dire banaliser, mais essayer avec un langage tout simple. Moi, le livre, je le trouve très, très bien écrit. Tout le monde peut le comprendre. Mais souvent, il y a des gens qui lisent des choses sans comprendre. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Voilà. Essayez.
Oui,
voilà. Avec un terre à terre, comment vous pouvez expliquer là, à nos auditeurs qui nous écoutent, là, je ne veux pas rabaisser qui que ce soit, mais pour que tout le monde comprenne, au fond, quand on parle de droit et liberté, Pourquoi est-ce que les gens utilisent ça tout le temps? Ouais, moi j'ai le droit, ma liberté est brisée, mes droits sont pris. Pourquoi est-ce que les gens utilisent ça pour soit manifester ou bien pour faire des dégâts, aller bloquer même le Parlement à Ottawa avec, oui, avec des camions? Parce qu'il y a une mauvaise interprétation.
Oui. Oui, puis qui n'est pas nécessairement mal intentionné. C'est-à-dire, on est dans une société libérale.
Oui.
Le principe de la société libérale, c'est que l'État n'a pas tous les droits, en fait. L'État doit justifier des intrusions à l'intérieur des sphères d'autonomie personnelle qui sont enchâssées, oui, dans certains textes, dont dans les chartes des droits. Bon, alors, à partir du moment où, surtout dans un contexte social et politique où les gens souffrent, je veux dire, la COVID, et c'est pas la faute de l'État, c'est la faute de la crise qui nous a frappés, je veux dire, la COVID est arrivée, puis l'objectif des gouvernements à travers le monde, en principe, c'est d'agir d'une telle manière qu'on va être capable de protéger la collectivité contre cet ennemi invisible-là qui nous a mis à mal un petit peu partout à travers le monde.
Oh oui.
Alors, évidemment, ces mesures-là, ben, peuvent restreindre. Quand l'objectif est de protéger le plus grand nombre, ben, et qu'il y a une crise de la nature de celle de la COVID-19, ben, il peut y avoir des situations où les gouvernements vont pouvoir adopter des mesures qui vont être restrictives des droits individuels et qui vont entraîner, mm-hmm, des privations, voire dans certains cas, une crise économique. Alors, comme la crise dure, ben, à un certain moment, c'est certain qu'il y a une colère. Il y a une colère qui monte, et cette colère-là, si elle est doublée, comme c'est le cas actuellement un petit peu partout en Occident, d'une crise de confiance importante envers les institutions au sens large et surtout les gens qui occupent des fonctions au sein de ces
institutions. Oui, les décideurs. J'aimerais pas être à leur place, en tout cas.
Tout à fait, c'est assez difficile, puis il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'attaques qui sont vicieuses et d'instrumentalisation des textes sur les droits fondamentaux.
Oui.
Alors, l'objectif, c'est de ramener à la base, l'objectif de mon essai, puis c'est l'objectif du travail que je mène par ailleurs comme chercheur en droits et libertés de la personne, c'est-à-dire, les chartes des droits, quelle est la vocation de ça? C'est pas simplement, c'est pas des instruments, mm-hmm, libertariens. Ce sont des instruments qui visent à protéger la refonte du pacte démocratique qui est intervenu entre les États, bon, principalement occidentaux d'abord, mais après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
C'est-à-dire essentiellement la démocratie, considérant les horreurs qui ont été perpétrées à l'encontre de nombreux groupes minoritaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment par le régime nazi.
Oui. Bon,
évidemment, on pense tout de suite aux exactions commises là, contre les Juifs dans le contexte de la Shoah, mais je veux dire, ça fait en sorte que les États ont décidé que la démocratie ne pouvait plus se résumer à la simple règle de la majorité qui décide et qu'il devait y avoir un socle de légitimité, mmh, en deçà duquel les majorités ne pouvaient plus aller sans abuser de manière justement injustifiée de leurs privilèges et de leurs prérogatives à l'encontre de groupes minoritaires. Alors, c'est ce qui est au cœur de la démocratie, des droits et libertés de la personne, mmh, mais c'est également ce qui se trouve à limiter la portée des libertés individuelles qu'on y retrouve, et je reviens au principe de Mill, mais je veux dire, il faut prendre ces textes-là comme un tout, il faut surtout lier ces textes-là,
oui,
chacune des garanties fondamentales, à la démocratie et au régime institutionnel qui est inextricablement lié là, à la capacité qu'on a justement d'agir individuellement,
oui,
qui dépend des ressources qu'on a, qui dépend des institutions, qui dépend des routes, de mon accès à la nourriture, à l'eau potable, etc. Alors, c'est pas évident et c'est surtout assez complexe d'être capable de comprendre la portée réelle et l'objectif poursuivi quand on a enchâssé des textes de la nature de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore de la Charte canadienne et de la Charte québécoise.
Oui.
Alors, c'est vraiment l'objectif que je poursuis. C'est quoi la démocratie des droits de l'homme et pourquoi est-ce que les textes qui protègent la démocratie des droits de l'homme et qui protègent les droits fondamentaux, mm-hmm, ben, ça profite à l'ensemble de la population.
Oui.
Et pas uniquement à certaines catégories, mmh, groupes minoritaires ou que sais-je encore.
Mais il y a des gens qui se croient prioritaires, surtout ceux qui, voilà, tout de suite, quand ils commencent à bander, sortir dans les rues, et puis disent, moi, mes droits et les droits des autres. Voilà.
Oui.
Comme,
oui,
vous l'avez déjà cité deux fois, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Voilà, effectivement. On oui, fait une petite pause musicale et puis je vous reviens.
Parfait.
À tout de suite.
À tout à l'heure.
Oui.
La lune vient juste de se coucher, la larme chante la même chanson, la braise pétille dans le foyer, je prendrai mon café dans mon camion. Un autre matin de liberté m'éloigne de ma belle endormie, bientôt une autre nuit à rêver, je pense au feu dans notre grand lit.
Oh, come back, darling. Oh, come back to me. I'm coming home to you. Oh, be there, please. Oh, come back to me. Ce soir, la lune s'est pas montrée. Il n'y a pas de lumière dans la maison. Le feu est mort dans le foyer. Je préfère dormir dans mon camion. Tes yeux me parlaient de liberté. Toi aussi, t'en avais envie. Je n'étais pas là pour t'écouter. Ma liberté nous a trahis. Come back, darling. Oh, come back to me. I wanna grow old with you. So come back, please. Oh, come back to me. À ma vie, les jours défilent comme les saisons. Il y a du soleil, il y a des jours gris. Des fois, je m'ennuie dans mon camion. Je paye le prix de la liberté. C'est loin de toi que je l'ai compris. Ce soir, j'ai plus envie de rêver. C'est le dernier voyage de ma vie. Oh, come back, darling. Come back to me. I'm coming home to you. I'll be there, please. Oh, come back, darling.
Come back, come back,
come back.
Oh, come back to me. Come back, come back, come back.
I wanna grow old with you.
Come back, come back,
come back. Come back, please. Oh, come back to me.
Jacques Lavoie, le prix de la liberté, puisqu'on parle de liberté avec notre invité, Louis-Philippe Lampron, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Laval. On parle de son livre « Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie des droits ». Voilà, les droits et libertés de la personne font l'objet d'attaques incessantes depuis plusieurs décennies. Pourquoi ces attaques? Pourquoi on attaque ça? Voilà.
Ben, c'est un contre-pouvoir. Les textes sur les droits fondamentaux, je veux dire, au niveau international comme au niveau canadien et québécois, je veux dire, ce sont des textes qui lient les mains des gouvernements. C'est un peu l'idée derrière la Déclaration universelle des droits. C'est les gouvernements qui renoncent à une part de leur capacité d'imposer leur volonté.
Oui.
Alors, comme tout contre-pouvoir, nécessairement, les puissants, ceux qui doivent respecter les droits et libertés de la personne, ben ça, ils peuvent essayer, ils peuvent trouver ça agaçant par moment. Ils peuvent, surtout si ça les empêche de mettre de l'avant un agenda politique X, Y ou Z. Alors, moi, que les gens qui se voient contraints de respecter les droits et libertés de la personne face à des tentatives visant à les délégitimer, c'est quelque chose qui est un petit peu naturel, évidemment.
Oui, oui.
Là où je suis plus inquiet, c'est que à terme, un manque de compréhension de ce que sont les droits et libertés, ça peut à terme saper l'adhésion de la population envers ces contre-pouvoirs-là qui ont vocation à les protéger. Parce que les garanties, quand on regarde les garanties qui sont au cœur de ces textes-là, bien, ça protège toute personne contre l'arbitraire étatique, ça protège toute personne contre les abus de pouvoir, et ça protège les nombreux groupes minoritaires contre d'éventuels abus des majorités contre eux. Mmh. Et quand on parle de groupes minoritaires, on parle pas uniquement de groupes qu'il est possible d'identifier sur la base d'une caractéristique personnelle protégée par le droit à l'égalité, là, comme par exemple les femmes ou des minorités racialisées ou que sais-je encore, mais également les minorités politiques, c'est-à-dire qu'un gouvernement s'est élu par une majorité de la population, mais il y a des groupes qui ont perdu leurs élections,
oui,
qui ont des agendas très, très différents.
Mm-hmm.
Or, une fois qu'on entre en fonction dans un État démocratique, l'objectif des élus, c'est de représenter l'ensemble de la population. Et on ne peut pas se tourner vers des ennemis politiques et commencer, par exemple, à rendre leurs opinions illégales ou encore... c'est ce que font par ailleurs toutes les dictatures. Alors, les droits et libertés, ça protège les individus et ça assure justement qu'une fois la bataille politique électorale terminée, ben les élus, ils doivent retirer leur chapeau de chef de parti politique et agir comme représentant de l'ensemble de la population, peu importe que la population ait voté ou pas pour eux. Et donc, c'est vraiment ce qui est au cœur des droits de la personne. Alors, ça explique beaucoup d'attaques de la part, à tout le moins, là, des institutions qui doivent respecter les droits et libertés. Mmh. Et des attaques qui se multiplient, ben à terme... ça peut saper l'adhésion de la population envers ces textes-là. Alors, c'est un peu un des objectifs que je poursuis là, quand je prends la parole publiquement et qui est au cœur de mon essai.
Oui. Très bien dit d'ailleurs. Et puis quand on parle un peu de l'urgence, parce que dans ce livre-là, l'urgence, quand en passant par cette histoire de Mike Ward à l'urgence sanitaire, oui. En passant par les projets de loi visant à encadrer les accommodements religieux ou la laïcité, vous décortiquez sous l'angle des droits et libertés les controverses qui ont marqué l'actualité québécoise au cours des 10 dernières années.
Oui, c'est un objectif que je poursuivais parce que les droits et libertés, je le disais tout à l'heure, ce sont des garanties. On dit souvent, et ça c'est un travers là, qui vient avec l'idée qui est très très bien intentionnée par ailleurs, là, mais un petit peu impérialiste, de l'universalisme des droits et libertés de la personne. Or, plus de 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits, il faut en faire la conclusion que les droits et libertés n'ont d'universel que leur libellé. C'est-à-dire que pour savoir qu'est-ce qui est protégé par la liberté d'expression, pour savoir qu'est-ce qui est protégé par la liberté de religion, on ne peut pas se borner à lire un texte comme la Charte canadienne. Il faut qu'on ait lire également les décisions qui ont interprété la portée de ces dispositions-là et la variation qu'on retrouve dans les jurisprudences nationales, c'est-à-dire les activités qui sont protégées par la liberté d'expression en droit américain ne sera pas la même que celle qui a cours en droit canadien ou en droit européen, en droit français, etc. Alors, il y a beaucoup de variations et ces variations-là, pour moi, sont très, très intéressantes parce que ça donne une couleur politique, en fait, au régime et aux interrelations très, très étroites qui unissent les droits et libertés de la personne-là et qui sont construites dans un contexte social et politique donné. Alors, moi, mon laboratoire, c'est en raison de ma spécialité puis parce que je suis un juriste québécois, bien sûr, c'est le Québec et la portée des droits et libertés de la personne, ça se construit et ça évolue au gré des situations qui mènent, dans une certaine mesure, les juges à se prononcer et à patiner, si je peux me permettre, là, les objets de protection qui sont reconnus en droit québécois et canadien. Alors, effectivement, tout le débat sur la laïcité de l'État, le recours aux dispositions de dérogation dans le contexte de la loi sur la laïcité de l'État, l'état d'urgence sanitaire, Ward contre Gabriel, etc., c'est des situations où les tribunaux ont été en mesure de combler des vides conceptuels, en fait, là, qui sont tout à fait normales quand on met en œuvre les dispositions qui ont une portée large et précise comme les droits et libertés de la personne.
Mmh. Vous, qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est... Quand le jeune Louis-Philippe a mis les pieds à l'école, il s'est dit, moi, c'est ce que je veux faire plus tard. Je vais m'intéresser à ça. Au droit, je vais étudier le droit, je vais m'occuper de les droits, liberté, la démocratie dans ma vie plus tard. Ou bien c'est à force de lire, c'est votre culture personnelle qui vous a permis d'aller vers cette spécialisation à l'université.
Oui. Ben, j'ai été pris au jeu. Par ailleurs, le droit, c'était, je le dis d'ailleurs au début de mon essai, je suis allé en droit parce que j'ai suivi ma copine de l'époque.
Je voulais pas aller là.
Mais voilà, mais c'est un avis public maintenant, alors on s'est bien parlé. Mais je savais...
Pour éviter la séparation.
Voilà, et ça a été un échec lamentable. Par ailleurs, la séparation, c'est quand même produit.
C'est ça.
Mais voilà, au moins, elle m'a laissé ma carrière en cadeau. C'est pas mal quand même. Mais je savais, en fait, moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai construit ma carrière, c'est-à-dire que c'est la curiosité, quelque part. Je savais des choses que je voulais pas faire, mais il y a beaucoup de choses que je me disais pourquoi pas, puis le droit, c'était ça.
Oui.
Mais j'ai eu vraiment un choc, puis j'ai su assez rapidement qu'est-ce qui m'intéressait en droit. Et par ailleurs, ce sont les principes qui sont très près de la politique. Hein. Quand on parle de droits et libertés de la personne, je veux dire, dans la sphère du droit, c'est quand même une discipline qui est particulière, là, dans le droit constitutionnel, bien sûr, mais c'est la légitimité de l'action de l'État. Alors que les autres disciplines, ben, quelque part, c'est le législateur, puis ensuite, il faut appliquer les lois qui ont été mises en place pour réguler des situations de droit privé ou encore de droit criminel. Oui. Alors que le droit constitutionnel, on est toujours en train de se demander si l'État, si le législateur, si le gouvernement pouvait adopter une loi X, Y ou Z, et nécessairement ça nous fait nous questionner au niveau philosophique, politique et sociologique. Alors, mon premier cours de droits et libertés de la personne, j'ai eu la piqûre et voilà, plus de 20 ans plus tard, j'y suis toujours.
Oh, vous y êtes. Vous y êtes toujours. Oh, non, c'est sincèrement, pour ceux qui n'ont pas encore ce livre, c'est aux éditions d'ailleurs, c'est déjà en librairie, c'est aux éditions oui. Somme Toute. Et comment ça s'est bien passé la collaboration avec la maison d'édition, Somme Toute?
Très, très bien, très, très bien. En fait, confiance, c'était quelque chose qui a été très précieuse pour moi, parce qu'à la base, j'avais, quand je suis allé les voir avec mon projet, j'avais ma masse critique de texte, en fait, mais je leur parlais de ce que je voulais que l'essai devienne. Ça, oui. Évidemment, il n'y avait pas mon introduction générale, ma conclusion, etc. Puis c'est en discutant avec le responsable, donc, avec qui je travaillais, qui est Julien Côté, que j'ai été capable, justement, il a trouvé que l'idée était très, très bonne, puis on est parti de là.
Oui.
Et ça a été assez vite, entre le moment où ils ont accepté mon idée et le moment où on a été capable de faire paraître, c'est écoulé environ 6 mois, là.
Mm-hmm.
Donc, voilà, je pense que manifestement, mon essai était mûr dans ma tête, j'ai donc été en mesure oui. de livrer l'introduction générale, puis ce qui lie les différents textes ensemble à travers les thématiques mm-hmm. Qui structurent l'essai. Donc, oui. Non, ça a été une collaboration absolument productive et constructive.
Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous n'avez pas encore ce livre-là de Louis-Philippe Lampron, c'est déjà en librairie. Allez, vous prenez une bonne copie là-bas. Parce que chacun de nous interprète ça comme il veut. Voilà. Le droit et liberté, la démocratie, c'est quoi la démocratie? Ouais, tout le monde crie actuellement que c'est parce que l'Ukraine voulait rentrer du côté de la démocratie en Europe de l'Ouest que... Bon, le voisin puissant à côté ne veut pas entendre parler de ça. C'est autre chose. C'est pas le but de notre conversation. Alors, si vous avez un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent là,
oui,
quand ils parlent de droit et liberté, mes droits, mes libertés là, voilà, pour les derniers,
c'est de pas les décontextualiser en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme aller à l'épicerie quand on parle de droits et libertés de la personne. C'est-à-dire que on peut pas choisir une disposition de la charte et faire comme si toutes les autres n'existaient pas.
C'est ça.
La liberté d'expression, les libertés fondamentales, ça doit s'interpréter à l'aune du droit à l'égalité, du droit à la vie, à la sécurité d'autrui, etc. Et donc, tous les droits fondamentaux ont des limites et ces limites-là ne sont pas un signe de dictature ou un signe d'arbitraire ou un signe du fait qu'on est en train de nous priver de nos libertés. Bien au contraire, mm-hmm. pour être capable d'exercer collectivement nos libertés, on a besoin des institutions
oui.
qui sans lesquelles on... Dans la forêt, on n'a pas véritablement de liberté parce qu'on a beaucoup moins de moyens.
Et comme vous le dites si bien, les droits et libertés, c'est les garde-fous des sociétés démocratiques et libertés arrachés de hautes luttes par les générations qui nous ont précédés.
Tout à fait, tout à fait. C'est ouais. quelque chose de précieux et ouais. c'est surtout pas du droit naturel.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle est-ce qu'on est allé vers des textes comme ceux-là et à terme, c'est pour assurer la coexistence pacifique. Alors, ça permet de faire la boucle avec ce qui se passe en Ukraine actuellement, mais les droits et libertés, ces garanties-là qui lient l'État, que l'État doit respecter ces garanties-là, ben, à terme, le méta-objectif, c'est de s'assurer que tout un chacun soit capable de coexister pacifiquement
oui.
au sein des sociétés nationales comme de la société internationale.
Wow! Je vous dis merci. Oui, donc vraiment, sincèrement, ce livre-là, je vous dis, quand je l'ai reçu de la part de la maison d'édition, je me suis dit, ça ne faut pas rater. En tout cas, merci beaucoup à vous, Louis-Philippe Lampron, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Laval. Et le sujet du livre, le titre du livre, c'est « Maudite charte, 10 ans d'assaut contre la démocratie des droits et libertés ». Merci beaucoup à vous et à bientôt pour un autre sujet.
Merci beaucoup, très bonne soirée.
Merci à vous aussi. Et merci à toi Nicolas, on se retrouve demain. Et merci aux fidèles auditeurs et sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes. Voilà. Et sur ça, je vous dis ciao.